clé d'action pour les acteurs culturels. À l'échelle d'une structure culturelle, selon quels principes améliorer ses modes de production?
Benjamin Leroy, cofondateur et associé salarié d'Eco Sapiens. Les achats responsables.
Nous, à Eco Sapiens, notre travail aujourd'hui, c'est on travaille directement avec les consommateurs. On propose une large variété de produits, plus de 30 000 aujourd'hui. On essaie de recouvrir tous les champs de la consommation classique et une partie d'information à côté pour essayer de trier les vraies démarches, les bonnes et les mauvaises, les truands, ceux qui récupèrent la lutte contre le greenwashing, qui récupèrent les arguments verts, qui marchent bien, qui les recyclent bizarrement et tout ça. Et donc, dans tous ces catalogues, on va dire, de produits, il y en a pas mal où les acteurs de la culture pourraient s'inspirer. Je pensais à tout ce qui était la matière première pour les arts plastiques, tout ce qui va être la décoration parfois, comment on va essayer d'utiliser des matériaux peut-être de la réutilisation, peut-être essayer d'utiliser des matériaux que l'on va pouvoir recycler, réutiliser. À toutes ces questions-là, il y a quand même beaucoup aujourd'hui d'alternatives pour y répondre. Sur notre site internet, il y en a beaucoup. Pour les acteurs marseillais, on a essayé aussi de faire une carte pour regrouper tous les acteurs locaux qui sont capables de fournir de la bouffe de qualité dans les meilleures conditions, qui vont pouvoir fournir des fournitures administratives correctes, où on va pouvoir trouver des matériaux sains pour utiliser, où on va pouvoir trouver même des gens qui vont venir dans les éco-festivals installer des toilettes sèches et compagnie. C'est vrai qu'on a beaucoup d'habitudes à changer. C'est un peu ça la difficulté. C'est comment on se met dans un processus de changement parce qu'on a toujours fait comme ça et pourquoi on ne ferait pas autrement. Et c'est presque dommage que ce soit les acteurs culturels qui, dans mon imaginaire, étaient innovants et créatifs, soient pas les premiers à s'en être saisis. C'est dommage, mais ça va venir apparemment. Vous allez faire changer tout le monde là.
Renaud Bétain, GERES, groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. La compensation carbone solidaire.
Donc effectivement, tout à l'heure on parlait de développement durable et on l'assimilait à des gros mots. Moi je vais vous parler de compensation carbone, c'est presque une insulte. Donc je travaille pour le GERES qui agit en France sur le territoire PACA. Sur un programme de compostage individuel notamment, et qui surtout monte des projets de solidarité dans les pays du Sud, donc pays les plus pauvres. On est en Asie du Sud-Est et en Afrique, Maroc et Afrique subsaharienne. Les projets se basent sur l'accès à l'énergie et visent à améliorer les conditions de vie de ces populations, des populations locales. En 2004, le GERES a lancé la toute première opération de compensation carbone volontaire. C'est important, c'est une vraie démarche volontaire. Pour cofinancer les projets. Donc la compensation carbone, ça consiste à financer une économie de gaz à effet de serre sur un projet de développement durable, donc participer au financement d'un projet de solidarité. Et ce financement sera équivalent aux émissions de CO2 qui auront été réalisées ici en France. Donc nous, en France, on est tous à 10 tonnes équivalent CO2. Si vous voulez concrètement me racheter vos tonnes de CO2 émises, on est à 24 euros, vous allez me faire un chèque de 240 euros, et vous allez pouvoir compenser vos émissions, c'est-à-dire que les 10 tonnes qui ont été émises au nord, vous allez les économiser au sud. Et vous allez pouvoir faire valoir justement une annulation de l'impact de vos gaz à effet de serre. Il faut intégrer avant toute chose que la compensation carbone ne se justifie qu'en complément d'efforts de réduction. Une fois que toutes ces actions de réduction à la source ont été mises en place, il reste des émissions de gaz à effet de serre résiduelles. Donc clairement, on ne va pas arrêter de respirer. Les entreprises qui ont des commerciaux ne vont pas les fixer chez eux et leur interdire de se déplacer parce que de toute façon il faut que l'entreprise avance. Donc on émet du CO2. Ce qu'on ne peut pas réduire, on peut le compenser.
Julien Perrier, fondateur d'Aremax, le recyclage des déchets.
REMAX, ça veut dire Association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. La politique de l'association, dès le départ, c'était de se dire aujourd'hui, il n'y a pas de réel dispositif matériel déjà qui permette de mettre en place du tri sur les événements. Tout simplement parce qu'un événement, c'est déjà une grosse logistique, c'est beaucoup de camions, c'est beaucoup de gens qui bossent, beaucoup d'énergie dépensée. Quand il faut ramener des conteneurs de tri, par exemple, pour rester très technique, quand il faut ramener des conteneurs de tri et des gros conteneurs de tri, les mettre sur les événements, c'est 2-3 camions. Donc on a développé un petit matériel beaucoup plus petit. On peut venir avec un tout petit trafic et venir avec 150 poubelles. Donc juste des petites améliorations comme ça qui nous ont permis petit à petit de se dire ben, en fait, on est en train de mutualiser des moyens de collecte de déchets. On est en train d'apprendre comment le mettre en place et comment en parler aux gens aussi, sans leur faire peur et sans leur tout de suite leur donner l'impression qu'on est là pour leur taper dessus. Et donc c'est des petits événements, des gros événements, on travaille avec des collectivités, on travaille avec des institutions, on travaille avec des organisateurs privés, on travaille avec des marques, on travaille avec tout un tas d'acteurs qui à un moment ont pris conscience de ça aussi. Alors il y a bien évidemment un terme qui est l'image, qui est assez difficile aussi à cerner. C'est difficile de savoir si quelqu'un veut vraiment faire quelque chose par pure conviction ou si simplement il s'est bien rendu compte que c'était important pour son image. Ceci dit, les gens pour l'instant avec qui on travaille, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment de l'implication. Il faut savoir que ça coûte de l'argent, donc c'est aussi toutes les questions économiques qui sont liées au développement durable. Qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à investir pour avoir un meilleur monde demain? Parce qu'on peut pas non plus demander, on peut pas demander à plein de gens d'avoir plein d'initiatives et puis qu'ils le fassent tout le temps gratuitement, quoi.
Débat avec la salle, intervention de Myriam Morel-Deledal de l'Université Senghor d'Alexandrie, puis de Rokhaya Dabassar d'Africa Fête au Sénégal.
Je voulais juste rappeler qu'on est dans des contextes très loin des contextes africains ou nord-africains sur la question d'une part de l'environnement, d'autre part des déchets. J'ai juste deux exemples que je connais bien. Un en Tunisie où on incite les enfants sur les sites de plages touristiques à ramasser des bouteilles de plastique en leur donnant un peu d'argent pour qu'ils ramènent au centre de tri plastique pour qu'après justement tout le plastique soit rassembler, réutiliser d'une manière X que je ne connais pas. C'est à la fois une incitation financière qui est importante, qui rééquilibre, non pas financièrement, mais un peu moralement, la masse de fric qui est dépensée par les touristes et les déchets, enfin le fait de jeter, et une compensation financière pour les gens qui sont un peu victimes du tourisme, puisque le tourisme c'est magnifique comme développement, mais aussi il y a beaucoup de nuisances, donc essayer aussi de sensibiliser à la question de l'environnement, parce qu'en Tunisie, pas plus que dans beaucoup de pays du monde, on est très sensible à la question de l'environnement. Deuxième exemple que je connais bien aussi à Abidjan, et peut-être que comme là on pourra confirmer, ou d'autres personnes avec d'autres exemples africains, on incite les populations aussi à réutiliser les plastiques qui s'envolent dans la nature, parce qu'il n'y a aucune gestion, à les laver et à les vendre par paquets, par des tonnes comme ça aussi, donc un retour financier et aussi une sensibilisation à cette démarche sur l'environnement et au fait que on peut remployer.
Que chez nous, franchement, nous on n'a pas cette mentalité. Nous on jette partout les déchets, n'importe où, partout. Donc il n'y a pas de façon, il n'y a pas, même les collectivités, la mairie qui s'occupe de ces déchets chez nous, ils n'arrivent pas à avoir plein de poubelles partout. Des fois, il faut marcher des kilomètres pour avoir une poubelle. Moi, je suis la première fois que je suis arrivée à Paris. Bon, j'ai vu que tout était nickel, quoi. Donc, en parlant de développement durable, il faut vraiment penser, parce que c'est très, très, très important. Chez nous, jusqu'à présent, c'est sale. C'est très sale. On ne sait pas où on met les choses. Il y a une poubelle pour tout. On jette les verres, les tout. C'est dans une même toute poubelle. Et la notion de tri, franchement, c'est pas encore arrivé chez nous, quoi. Et quand on fait nos festivals Africa Fête, c'est à nous de faire ça après. Soit on laisse comme ça, on s'en fout, ou bien on se dit, écoute, quand même, on a une petite expérience occidentale, il faut essayer de me nettoyer un peu avant de partir. C'est nous. Ça, c'est pas encore arrivé chez nous. Et je pense que c'est une très très bonne idée si on arrive vraiment à installer ce système chez nous.